Et puis à 7h41, je souhaitais, Anne-Laure, vous faire entendre la voix de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, disparu hier à l'âge de 85 ans. Ce matin, on a beaucoup parlé de jeunesse et lui n'a jamais fait qu'écrire sur sa jeunesse extrême, si j'ose dire, puisqu'à l'âge de 10 ans, il s'est retrouvé dans les forêts ukrainiennes, chassé par la Shoah, fuyant les nazis. Il a écrit là-dessus, il a publié 40 livres, sa voix est particulièrement émouvante, écoutez-la.
Jusqu'à ce jour, je ne sais pas comment il se fait que je suis devenu écrivain. De la même manière qu'on ne peut pas expliquer les miracles. J'étais seul, je n'avais pas à qui parler, et ce n'est pas seulement que je ne pouvais pas parler, je n'avais pas à qui parler.
Et
durant ces années, les gens ont écrit à propos de la guerre sous une forme réaliste. Et très vite, j'ai compris que sur cette Seconde Guerre mondiale, cette grande guerre si cruelle, on ne pouvait pas écrire de manière réaliste. Alors, c'était la première chose que j'ai comprise, mais évidemment, ça ne suffisait pas. Peu à peu, je me suis aussi mis à lire. J'ai lu Kafka, j'ai lu Camus, j'ai lu d'autres auteurs. Et j'ai compris que si je voulais devenir écrivain, il fallait que je parvienne à atteindre une sorte d'universalisme.
La voix d'Aaron Appelfeld, c'était au micro de Laure Adler dans Hors-Champ en juin 2015. Delphine de Vigan, Les Loyautés, le roman que vous publiez, est un roman polyphonique où l'on entend des voix d'enfants, de préadolescents, évidemment, ils n'ont pas les cauchemars d'Aaron Appelfeld, tant mieux. Ils ont d'autres cauchemars, et ce sont des cauchemars qui nous concernent, parce que ce sont des cauchemars contemporains. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur ces cauchemars-là ?
C'est sans doute une manière de revenir effectivement à l'enfance, et je me reconnais tout à fait dans l'archive que vous venez de diffuser. C'est à la fois d'ailleurs dans le mystère que constitue l'écriture pour nous, écrivains, parce que très souvent, quand on demande à un écrivain pourquoi il écrit, au fond, il ne le sait pas forcément, ou il écrit pour savoir pourquoi il écrit. Et en même temps, j'ai vraiment le sentiment, et peut-être de plus en plus d'ailleurs, à mesure que je publie et que je parle avec des amis écrivains, qu'il y a dans l'écriture quelque chose qui est fondamentalement lié à l'enfance. Et en même, ça reste très mystérieux, ce lien. Mais je pense que vraiment dans l'élan d'écrire, la pulsion d'écrire, il y a quelque chose qui est lié à la blessure de l'enfance, quelle qu'elle soit. Et alors, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit liée à la grande histoire, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et pour moi, Les Loyautés, c'était sans doute une manière d'explorer à travers la fiction, de nouveau, parce que je l'ai fait d'autres manières, ce moment de l'enfance, en l'occurrence, ce sont des très jeunes adolescents, ils sont vraiment au seuil, ces deux personnages, ces deux petits garçons, au seuil de l'adolescence, et d'essayer de comprendre ce que c'est qu'être adolescent aujourd'hui aussi.
Et vous essayez de le comprendre en écrivant, en vous mettant à la place donc de quatre protagonistes. Il y a deux femmes, il y a deux préadolescents dont on va suivre donc chapitre après chapitre les points de vue. Il y a Théo, 12 ans. Alors lui, il est enfant de parents divorcés. Il est pris en étau entre un père en fin de droit et une mère animée par la haine pour son ex-mari. Et il y a Hélène, la professeure de SVT, qui croit repérer chez Théo des signes de maltraitance. Il y a Cécile, la mère de Mathis, qui découvre que William, son bourgeois de mari, est en fait Villemort 75, qui est auteur de propos haineux, racistes, antisémites. Donc on a comme ça ce roman polyphonique et vous mettez en place une sorte de psychodrame contemporain.
Oui, on peut dire ça avec cette idée en tout cas très forte d'une dramaturgie qui m'importe beaucoup d'une manière générale dans ce que j'écris. Et là, j'avais vraiment envie d'un roman qui se noue et qui se résout en partie en 200 pages en fait, avec cette idée d'une tension très forte dans l'écriture, quelque chose de très nerveux.
Pourquoi vouloir justement un roman sec, puisqu'on a vraiment l'impression, même s'il s'agit de quatre voix, d'un trait ?
Oui, tout à fait. Je sais pas, j'avais envie de revenir à cette forme que j'avais déjà abordée dans des romans précédents. C'est vrai que mes deux derniers romans, Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie, étaient des livres plus longs, plus amples. Et j'aime bien cette forme courte, très ramassée. Pour moi, justement, cette idée un peu du compte à rebours que j'avais envie de mettre en place dans ce livre-là.
Et peut-être aussi d'aller dans une forme qui est une forme différente de celle des autres livres que vous avez choisis, avec cette possibilité qu'offre le roman polyphonique d'utiliser plusieurs fois et finalement de vous glisser dans différents personnages.
Oui, c'est un jeu de regard en fait, et c'est j'avais envie aussi à travers cette forme de montrer qu'au fond tout ce qu'on voit se fait à travers un prisme, et que la vision de chacun lui appartient, et qu'on ne voit pas les mêmes choses. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas, et chacun de ces personnages au fond voit les choses à travers ses affects, ignorant évidemment ceux des autres. Et ça m'intéressait de faire avancer l'intrigue comme ça. Avec des sachant que chacun est en partie aveugle, en fait, à la souffrance de l'autre.
Lorsqu'on lit Les Loyautés, puisqu'on vous connaît un peu, même si je ne vous connais pas, j'ai lu vos romans précédents, et dans ces romans précédents, il y a de l'autofiction, il y a des récits sur ce que vous êtes, ou en tout cas, on imagine qui vous êtes. Dans Les Loyautés, vous êtes qui ?
Oh, je suis personne et tout le monde à la fois. C'est d'ailleurs le grand plaisir de revenir à la fiction. C'est de pouvoir incarner les personnages. Ce qui m'intéresse, c'est de les rendre vivants, qu'ils existent par eux-mêmes. J'aime d'ailleurs ce moment souvent où ils m'échappent. Donc oui, sans doute qu'il y a un petit peu de moi dans tous ces personnages, mais en même temps, aucun ne me ressemble vraiment.
Alors pourquoi ces loyautés ? Parce que bon, il y a une interrogation. Alors vous livrez au début de l'ouvrage une sorte d'explication, même si je ne sais pas si un romancier explique quelque chose, mais en tout cas il y a un texte qui justifie ce titre. Et effectivement, cette justification, lorsqu'on lit cet échange entre ces différents regards, ces pans de réalité, on se demande pourquoi vous avez choisi ce titre-là, Delphine de Vigan.
Parce qu'il était vraiment à l'origine de l'écriture de ce texte, en fait. L'idée que cette question de la loyauté nous habite énormément. Alors, elle nous habite dans nos relations avec autrui, bien sûr. C'est aussi la loyauté vis-à-vis de nous-mêmes, la loyauté vis-à-vis des autres, de notre famille, de notre clan, de notre tribu, de notre milieu social. C'est la loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de son entreprise, etc. Toutes ces questions, il me semble qu'elles nous traversent en permanence, et que la manière que nous avons de les appréhender, au fond, est assez liée justement à l'enfance. En tout cas, moi, je me suis fait cette réflexion.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
En ce qui me concerne, et c'est pour ça sans doute que ce thème m'a intéressée, cette question permanente de la loyauté, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je suis loyale ? Est-ce que c'est loyal si ? Il y a quelques mois, quand on était en pleine campagne présidentielle et qu'on entendait toutes ces histoires de loyauté, je me disais, mais au fond, pourquoi moi je suis sensible à cette question, peut-être plus que quelqu'un d'autre ? Et j'en suis venue à la conclusion que c'était peut-être parce que j'étais enfant de parents séparés, ce qui est, somme toute, assez banal, mais je suis intimement convaincue que pour les enfants de parents divorcés, cette question, elle est cruciale très tôt. C'est un enjeu majeur très vite. Ce qu'on doit dire de ce qui se passe chez l'un à l'autre, passer d'une culture à l'autre, être fidèle à ces deux manières de vivre, à ces deux cultures, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment récurrentes.
Et cette question de la loyauté entre ces deux parents, pour Théo, l'un des personnages de votre roman Les Loyautés, Delphine de Vigan, c'est une question qui se pose de manière particulièrement aiguë, puisqu'on le voit déchiré entre ses deux parents, avec sa mère qui voue une haine infinie à son ex-mari.
Oui, cette femme est enfermée dans sa souffrance, elle est enfermée dans une haine effectivement aveugle, d'abord qui a commencé par s'exprimer de manière très violente, ce qui évidemment est extrêmement violent pour l'enfant qu'il a été, et qui s'est transformée par une espèce d'ignorance, elle se comporte comme si d'indifférence référence, comme s'il n'existait pas, en fait, comme si son ex-mari n'existait pas. Et ça, c'est évidemment extrêmement violent, et Théo, pour des raisons qu'on découvre dans le roman, se trouve pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, ce qui, là aussi, est malheureusement quelque chose d'assez fréquent, et enfermé dans un pacte de silence qui n'a même pas eu, d'une certaine manière, à être prononcé, d'ailleurs, parce que c'est en effet par loyauté vis-à-vis de son père qu'il reste dans la situation dans laquelle il est, qui le met profondément en danger.
Avec donc ce couple désuni, vous dites que c'est une haine aveugle, c'est une haine qui va jusqu'à ne plus supporter l'odeur de cet homme qu'elle a aimé ou avec qui elle a été en tout cas.
Oui, oui, oui. Ben c'est vraiment le rejet viscéral de cette femme vis-à-vis de son mari pour des raisons qui lui appartiennent, qu'on devine d'ailleurs plus ou moins à travers le livre. Mais on, à un moment donné, d'ailleurs, il y a cette image d'une espèce de caillot vraiment comme un caillot de sang qu'elle n'arrive pas à éliminer. Et c'est pour moi cette femme, elle est victime de cette haine. Elle est elle-même victime de ça.
Le malaise adolescent, il se traduit notamment par l'alcool. Et ce qu'on appelle binge drinking ou l'alcool ingurgité, si j'ose dire, de telle manière qu'il provoque un quasi-coma éthylique. Là aussi, pourquoi avoir décidé d'évoquer cette question donc, de l'alcoolisme chez les jeunes ?
C'est quelque chose qui m'a frappée souvent voilà, mes enfants aujourd'hui, comme je vous le disais, sont plus âgés, entrent dans l'âge adulte, mais que c'est une génération pour laquelle l'alcool intervient vraiment beaucoup plus tôt, en fait, qu'à la mienne, par exemple, avec cette volonté d'inconscience, en fait, hein, alors ça prend, en termes de vocabulaire, c'est se mettre minable, c'est se mettre par terre, il y a tout un vocabulaire autour de ça, qui d'ailleurs, parfois est assez, comique, mais en l'occurrence très clairement, d'après ce que j'avais entendu et lu, les urgences accueillent de plus en plus de jeunes en coma éthylique et de plus en plus jeunes. Et ça m'avait interpellée cette question et cette... je disais tout à l'heure qu'il me semble que c'est sans doute plus inquiétant d'entrer dans l'âge adulte aujourd'hui. C'est une pression que je ressens peut-être à travers mes enfants, mais voilà, il me semble que l'alcool sans doute est un moyen d'échapper aussi à cette dimension assez anxiogène, finalement, du monde qui nous entoure.
Et puis si on continue à égrener ces pathologies contemporaines que vous explorez, notamment du côté de la jeunesse Delphine de Vigan, il y a également la question de la maltraitance.
Oui, alors ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, et c'est quelque chose qui a souvent traversé mon travail, c'est cette idée de la maltraitance qu'on ne voit pas, en fait, de la maltraitance invisible. En l'occurrence, ça peut être une forme, en effet, de maltraitance morale. Et là, pour moi, Théo, c'est un enfant maltraité, d'une certaine manière. Et c'est un thème qui me...
C'est un enfant maltraité avec une institution qui, donc je parle en l'occurrence de l'école, qui a du mal à détecter toutes ces choses-là, mais qui à la fois a différentes missions, éduquer, socialiser. Donc de surcroît, s'il faut détecter les souffrances des jeunes, ça n'est évidemment pas facile. Mais il y a quand même Hélène, donc cette professeure de SVT, qui pense repérer chez Théo ce type de souffrance.
Elle-même, en fait, a été une enfant maltraitée. Sa loyauté, la loyauté de ce personnage, c'est de s'être promis. Elle s'est promis à elle-même qu'elle ne passerait jamais à côté d'une situation de détresse comparable à celle qu'elle a vécue. Et au fond, très vite, elle repère chez ce jeune garçon un mal-être, quelque chose, dans une manière de se soustraire au regard, d'être là sans y être, qui l'interpelle beaucoup. Voilà, et elle se persuade, à la fois à tort et à raison, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle pense, en effet, que c'est un enfant maltraité au sens où elle l'a été. Oui. C'est plus complexe que ça.
C'est ce qui explique d'ailleurs qu'elle peut, ou c'est ce qui explique probablement qu'elle ne peut pas elle-même avoir d'enfant.
Oui, tout à fait. Ce sont les séquelles, finalement, de la maltraitance qu'elle a subie. Et,
c'est ce qui est, là aussi, une souffrance contemporaine. Elle existait aussi jadis, mais elle se formule aujourd'hui différemment, la souffrance liée au désir d'enfant, un désir insatisfait.
Oui, oui, bien sûr. Ben là, c'est, pour cette femme, c'est le cas. Il y a d'ailleurs un passage du roman qui est consacré, puisque c'est elle qui parle, elle écrit, enfin, elle est écrite à la première personne, à ce que ça veut dire pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Et ça, c'est une question qui me touche parce que, voilà, moi j'ai eu un désir d'enfant très fort que j'ai eu la chance de pouvoir satisfaire, mais je conçois que ça puisse être compliqué. Et en même temps, il y a une injonction de la société à avoir des enfants, enfin, en tout cas pour une femme, et avec cette idée qu'une femme n'est pas accomplie si elle n'a pas d'enfant, contre laquelle évidemment elle s'insurge et elle parle justement de tout ce que ça veut dire aussi ne pas avoir d'enfant, ce que ça veut dire à la fois peut-être de rester un enfant soi-même et en même temps d'abriter tous les enfants du monde.
C'est ce qui est là aussi une formulation nouvelle et toujours si on continue à égrener ces souffrances ou en tout cas ces quatre figures nouveaux que l'on trouve dans votre roman, un peu comme si vous aviez voulu être une ethnologue du présent Delphine de Vigan, il y a donc la question du trollage, dirait-on, sur Internet, autrement dit de ces gens qui... la plupart du temps sous pseudonyme, postent des messages violents, haineux, homophobes, racistes, que sais-je. Et là, donc, on a l'un des personnages qui découvre que son mari en est un de troll.
Oui, alors je ne veux pas en dire trop parce qu'il ne faut pas révéler trop les différents aspects du roman, mais... En effet, oui. Pour moi, c'est pas l'idée de dégrainer un catalogue de souffrances contemporaines, mais parce qu'au fond, peut-être que d'ailleurs toutes ces choses sont assez liées entre elles. Cet homme qu'elle côtoie le jour et qui vient d'un milieu social largement supérieur au sien, c'est une femme. Cécile, cette femme, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est sa manière de s'exprimer. En fait, il y a quelque chose chez elle, comme ça, une espèce d'élégance dans le désarroi. Elle a quelque chose d'assez fantasque qu'elle ignore elle-même, que j'ai essayé de faire passer à travers l'écriture. Et cette femme qui a appris à parler autrement, qui a appris à changer de langue, en fait. Elle vient d'un milieu très modeste. Elle a été fascinée par cet homme qui vient d'un milieu très bourgeois. Et au fond, elle s'est coulée, elle s'est fondue dans un moule qui n'était pas le sien. Et tout d'un coup, elle découvre que ce qui lui semblait si beau, si merveilleux, si miraculeux, abrite aussi une part très sombre.
C'était compliqué d'écrire sur quelqu'un d'autre que vous, c'est-à-dire de revenir à une fiction qui est, en tout cas sur le plan formel, est une fiction absolue, puisque aucun de ces personnages n'est de manière évidente Delphine de Vigan.
Non, c'est pas compliqué, j'adore ça. C'est l'essentiel d'ailleurs de mon travail, parce qu'au fond, si je me retourne sur les livres que j'ai écrits, j'ai deux livres qui sont effectivement autobiographiques.
Qui vous ont fait connaître
Le premier, donc, qui s'appelle Jour sans fin, qui a eu le succès d'un premier roman, c'est-à-dire un peu confidentiel, et puis ensuite, qui a pu être découvert par des lecteurs qui m'ont découvert plus tard, Jour sans fin et Rien ne s'oppose à la nuit. D'après une histoire vraie, c'est une fausse autofiction, donc je ne la mets pas dans le registre des autofictions. Et pour le reste, mon travail a toujours été un travail de fiction pour lequel, à travers lequel j'éprouve, oui, beaucoup de plaisir. C'est une très grande liberté aussi quand on écrit, de construire des personnages, de s'attacher à les incarner, à leur donner vie. Ce qui m'intéresse, ce que j'aime, c'est quand tout d'un coup j'ai le sentiment effectivement qu'il y a quelque chose qui palpite en fait chez ces personnages, quelque chose de juste au fond, c'est ça que je cherche et c'est très grisant quand on a le sentiment d'y arriver.
Je vais être loyal avec vous Delphine de Vigan, on se retrouve aux environs de 8h20, promis, c'est vrai, en attendant il est 8h, vous continuerez à nous parler de votre roman Les Loyautés, il est publié chez Lattès et il est effectivement 8h sur France Culture.